Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'annonce des prix Goncourt et Renaudot. La grande table vous fera vivre ce moment en direct. Qui de Amélie Nothomb, de Jean-Paul Dubois, de Jean-Luc Cottalem ou de Olivier Rollin succédera cette année à Nicolas Mathieu? Une seule femme, en tout cas dans la dernière sélection du Goncourt. 12 lauréates seulement depuis la création du prix en 1903. Les femmes, des écrivains pas comme les autres. On en parlera avec notre invitée, l'écrivaine Geneviève Brisac. Mais d'abord, l'animation à corps perdu avec le réalisateur Jérémy Clapin et l'écrivain scénariste Guillaume Laurent pour un petit bijou d'animation qui sort en salle mercredi, J'ai perdu mon corps, grand prix de la semaine de la critique à Cannes et prix du public et du jury au festival d'Annecy. La quête de corps d'une main et la quête d'amour d'un orphelin placé sous le signe du destin. Bienvenue autour de la grande table pour une nouvelle semaine à écouter tout de suite sur France Culture.
La grande table. Olivia Gesbert.
Et bonjour Jérémy Clapin.
Bonjour.
Et bonjour à vous Guillaume Laurent.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être avec nous. C'est pas un hasard si dans ce film, le personnage principal est une main coupée qui cherche son corps. Quand on est écrivain, scénariste comme vous, Guillaume Laurent, quand on est dessinateur, graphiste, réalisateur de films d'animation comme vous, Jérémy Clapin, la main, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de travail, voire plus, c'est le prolongement de vous, de votre imagination?
Je crois que quand j'ai fait le film, j'y pensais pas avant, je pensais pas vraiment à la main, à ma main de la même manière, en fait. Une fois que j'ai lu le livre de Guillaume Laurent où il y avait ce personnage principal, c'est vrai que j'ai regardé ma main après le livre et je me suis demandé ce qu'elle avait à me raconter sur moi. Finalement, il y a tout un monde à l'intérieur d'une main. Quand on serre la main de quelqu'un, on apprend beaucoup déjà sur lui. Il y a aussi cette idée que dans les lignes de la main, on peut voir le destin d'une vie. Donc en fait, ce film explore un peu ça, sans le nommer, mais voilà, le film montre un peu toute l'étendue de ce qu'on peut trouver à l'intérieur d'une main.
Et vous, Guillaume Laurent, quand est-ce que vous avez commencé à regarder votre main ?
Alors, je pense très tôt, et j'ai toujours été assez fasciné par les mains, en fait. Et j'ai un souvenir d'enfance, notamment, en voiture avec mes parents, de voir un gant qui avait été oublié, qui était sur le bord de la route. Et les voitures roulaient dessus, ça me faisait penser un petit peu au hérisson mort, vous voyez, comme si c'était la mue d'une main qui avait traversé, qui s'était fait écraser en passant. Donc j'imaginais que des mains pouvaient être autonomes, vivre comme ça sur les bas-côtés. Et ça m'avait, je pense, c'était un petit peu la source de ce roman.
Les mains, c'est plus que le fer, c'est déjà beaucoup, mais c'est plus que ça. C'est aussi ce qui permet de toucher, ce qui permet de ressentir. C'est une entrée, aussi une porte d'entrée pour les émotions. C'est de ça que vous avez cherché aussi à traduire, Jérémy Clapin, dans ce film, de montrer le monde à hauteur de main.
Disons, c'était ce qui m'avait vraiment plu dans le roman, c'était ce point de vue inédit. Et dans le film, il fallait le porter d'une manière inédite aussi au cinéma, c'est-à-dire inventer une manière de filmer. Être très proche du monde de la main qui est tactile par essence et en fait tout son rapport tactile au monde, il fallait réussir à le transmettre à l'image aussi. Le rapport tactile évidemment c'est donc le toucher. Le toucher c'est le sonore aussi parce que quand on touche quelque chose on a immédiatement le présent est là, on a le contact qui vient et ça permet de me dire que tout mon langage cinématographique je devais le mettre au service de cette particularité là a finalement m'a permis de développer un langage inédit aussi et donc un voyage inédit pour le spectateur dans le sentiment de vivre vraiment ce que peut vivre une main.
Le point de départ du film, J'ai perdu mon corps, c'est effectivement votre livre, votre roman à vous, Guillaume Laurent, Happy Hand, hein, pas END mais HAND avec le jeu de mots et la main bien sûr. L'histoire a été depuis transformée, réinterprétée aussi en partie par Jérémy Clapin. Comment vous avez travaillé? Vous n'avez pas, loin de là, juste cédé les droits d'adaptation du roman, vous avez vraiment co-scénarisé le film, mais vous avez laissé aussi la voie libre à Jérémy Clapin pour qu'il réinterprète cette envie, cette idée que vous aviez eue vous dans le roman pour faire ce film.
Bien sûr, c'est pas le même langage. Un roman, d'ailleurs, se suffit complètement à lui-même et n'a pas besoin, si on veut que rien ne bouge, il faut pas céder les droits. À partir du moment où on les cède, il faut accepter qu'on va raconter l'histoire d'une manière complètement différente. C'est toujours un passage qui est pas facile. Et là, la grande, grande difficulté, évidemment, c'est que dans le roman, il y avait deux personnages principaux qui étaient donc le garçon, Naofel, et sa main. C'était deux points de vue. Et dans un film, deux points de vue, c'est toujours un peu compliqué. On peut avoir une multitude de points de vue, ça passe, mais deux points de vue, il y a souvent un qui fait concurrence à l'autre. Et donc vraiment, le premier choix de Jérémy, ça a été de focaliser complètement l'histoire sur la main. Et là, ce qui était compliqué, c'était de la faire exister, puisque dans le roman, la main parle, pense, ses émotions, tout est traduit par des mots, tout est exprimé, ses souvenirs. Et là, elle ne dit plus rien, elle ne fait que bouger, et du coup, la manière dont elle communique ses émotions est purement sensorielle et purement, c'est la manière dont elle ressent le monde qui nous parle et la manière dont elle bouge. C'était vraiment l'énorme travail de la mise en scène qui m'a assez stupéfait.
Et ce qui était intéressant, c'était l'idée d'inversion du manque, en fait, parce que quand un personnage perd sa main, évidemment, c'est d'abord la main qui va nous manquer, mais ce film-là parle de l'inverse, c'est le corps qui va manquer à la main. Et le titre, d'ailleurs, montre ça très clairement. J'ai perdu mon corps, c'est vraiment l'histoire de cette main. Et c'est à travers son point de vue qu'on va découvrir, par le petit trou d'une serrure, l'existence d'un être humain. Donc on va le comprendre un peu depuis son enfance, toute son évolution, et ça va définir la destinée de ce personnage-là.
Voilà, deux histoires parallèles qui se retrouveront peut-être. Ça, il faut découvrir le film pour le savoir. Naoufel aussi cherche et se cherche dans ce film. Mais quoi ? Une raison de vivre, une raison d'espérer pour celui qui, très jeune, et le film s'ouvre là-dessus, a perdu des parents aimants dans un accident de voiture au Maroc, qui va se retrouver en banlieue parisienne chez un oncle plutôt sans âme. Qu'est-ce qu'il cherche, lui, Naoufel ?
Naoufel, quand on le récupère, il a 20 ans, il est livreur de pizza, et c'est vrai qu'il est dans le passé, bloqué dans le passé, et pour avancer, pour l'instant, il n'est même pas question d'avancer, il ne peut pas se projeter dans l'avenir, en fait, parce que pour se projeter dans l'avenir, il faut faire des décisions, il faut prendre une décision dans le présent, et comme c'est quelqu'un qui est vraiment bloqué dans son passé, il livre des pizzas H24, et il va rencontrer il va faire la rencontre de Gabriel, une personne qui va le reconnecter au monde et qui va lui donner en fait l'élan de reprendre son destin en main et donc de s'inventer ou d'espérer peut-être un avenir différent de celui qui poursuit jusqu'à présent.
On écoute un extrait du film, d'un dialogue entre Naoufel et la fille qu'il convoite, Gabriel.
Est-ce que tu crois au destin ? Non, sérieux.
Comme si tout était écrit d'avance, qu'on suivait une sorte de trajectoire.
Ouais.
Et qu'on pourrait rien changer.
On croit qu'on peut, mais non, c'est qu'une illusion. À moins de faire... un truc complètement imprévisible et irrationnel. C'est le seul moyen de conjurer le sort. Pour de bon.
Un truc comme quoi ?
Un truc... Je sais pas, n'importe quoi. Là, tu marches tranquille. Tu fais semblant d'aller là. Tu fais une petite feinte, comme un dribble. Un écart. Et hop, tu sautes sur la grue. Un truc improvisé, que tu devrais pas faire, que t'aurais pas dû faire, mais que t'as bien fait de faire, parce qu'au final, ça t'a amené ailleurs. Et tu regrettes pas. Un truc comme ça.
Et après ? Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi ?
Après ? Tu t'arranges pour pas qu'il te rattrape. Tu fonces tête baissée et tu croises les doigts. Quoi ?
Pardon ?
Quoi ?
T'as pas faim ?
J'ai commandé une pizza.
De vous deux, Guillaume Laurent, Jérémy Clapin a déjà dribblé avec son destin.
Oui, et même livré des pizzas, figurez-vous.
Aussi.
Et oui, bien sûr, c'est. Je pense que derrière, si on peut dire qu'il y a c'est la quête de soi en fait que cherche Naoufel. Et il a évidemment beaucoup de handicaps. L'histoire est un peu écrite à l'avance et pas forcément en sa faveur. Et il doit faire tout un cheminement, qui est évidemment, là, on peut dire une métaphore un peu, avant peut-être conquérir cette part manquante de lui-même qui va lui permettre de dribbler le destin. Et évidemment, de toute façon, on passe toute son adolescence à dribbler le destin, je pense.
C'est vrai? Vous êtes d'accord avec ça? Vous y croyez, vous, à cette idée de destin, tout simplement, Jérémy Clapin?
Je crois souvent, faut pas... Pour qu'il nous arrive des choses intéressantes dans notre vie, il faut secouer un peu cette ligne de la destinée. Et ça passe souvent par être un peu subversif ou faire un pas de côté, être là où on nous attend pas forcément. Souvent, quand je dois même répondre à un projet de commande ou quelque chose comme ça, si on donne vraiment ce qu'il y a dans le cahier des charges, il va rien se passer, en fait. Faut surprendre. C'est l'idée vraiment de se surprendre soi et de repasser maître de quelque chose plutôt que d'attendre que tout nous vienne comme ça. Donc oui, j'y crois.
Le film est aussi un hommage au rôle que peuvent jouer ou jouent les livres dans nos vies, Guillaume Laurent, à travers le personnage de Gabriel, la bibliothécaire. Ils vous ont, vous, toujours accompagné et probablement peut-être aussi changé, les livres?
Oui, bien sûr. Je pense même que j'ai vécu pendant des années à travers les livres. J'étais un très mauvais élève. Et pour moi, la vie, c'était vraiment ce que je lisais dans les livres. Et un livre notamment m'a vraiment été déterminant pour moi, c'est Martin Eden. Et pendant des années, je me suis vraiment identifié au personnage de Martin Eden. Donc les livres ont eu toujours un impact très très important dans ma vie. Et un livre a une particularité, c'est que même quand on le relit des années après, on s'aperçoit qu'on a changé, on se fait sa mise en scène. En fait, tout ce qui est un livre nous appartient. Il y a quelque chose de complètement implicite dans ce qui est donné par un livre et qu'on peut revoir et revivre d'une manière différente. Alors qu'un film, évidemment, les choses sont montrées et relèvent du choix du metteur en scène. Mmh. C'est très intéressant de passer de l'un à l'autre.
Là, ce film, Jérémy Clapin, part d'un livre, puisqu'on l'évoquait, c'est celui de Guillaume Laurent que vous avez lu et choisi d'adapter par la suite. Il a fallu donc passer d'un imaginaire littéraire, passer des mots aux images que vous pouviez vous en faire, mais il y a quand même autre chose, un autre personnage qui est loin d'être le parent pauvre du film, c'est le son. Vous avez plutôt grandi, vous, avec les livres ou avec du son, que ce soit le son de la radio, le son de la musique.
C'est vrai que je lisais pas énormément, à part l'été, peut-être des livres de série B fantastiques. J'ai toujours beaucoup aimé la littérature fantastique, le cinéma fantastique aussi. Alors après, c'est vrai que j'écoutais la radio souvent, ou Pink Floyd un peu de manière obsessionnelle quand c'était à cette époque-là. Je sais pas si ça parle encore à des gens. Mais non, vraiment ce qui m'intéresse, c'est le... J'aime bien cette irruption du fantastique, on peut l'avoir dans la littérature chez Murakami, du fantastique qui finalement cohabite avec la réalité et qui ne sont pas en opposition l'un l'autre en fait. Ça fabrique une espèce d'autre réalité à laquelle moi j'adhère totalement. Et c'est ce qui m'a plu aussi dans le livre, c'est ce personnage de la main là qui va vivre une véritable odyssée à travers la ville. Finalement, le film ne parle pas de ça, évidemment. Le film, cette irruption du fantastique, permet de parler de thématiques peut-être plus difficiles à aborder de manière frontale, comme le deuil, comme la mémoire, tout ça. Et c'est ce fantastique-là que j'aime vraiment, qui nous permet vraiment de redéfinir un peu le monde où on est plus facilement.
Et les cinq sens qui sont vraiment convoqués dans le film « J'ai perdu mon corps ». On retrouve cette idée de l'ailleurs, de l'échappée, de la quête et aussi peut-être celle de la métamorphose. À ce propos, je vous propose d'écouter les mots d'un autre cinéaste, Koji Yamamura.
Et donc, pour vous dire ce qui, moi, me travaillait à l'époque où je travaillais sur le film Fin d'étude, c'était vraiment, je venais d'entrer dans la vingtaine, c'était des questions d'identité, je dirais, des questions de perception de sa propre identité qui étaient au cœur un petit peu de mes préoccupations, et du coup, c'est ce qui m'a amené à travailler sur ce film, donc où on voit cet homme se transformer en poisson, etc. Donc, passer par différentes métamorphoses dans le contexte d'un film où on peut se dire qu'il y a une trame narrative ou il n'y en a pas, on peut le percevoir dans un sens comme dans l'autre. Et un motif que par ailleurs je traîne avec moi donc d'un film à l'autre, c'est bien sûr le motif de la métamorphose. Disons que c'est un facteur, je pense, important dans mon travail d'une manière continue. Effectivement, c'est la métamorphose que permet le cinéma d'animation.
Voilà, Koji Yamamura à propos de son film aquatique. Est-ce que J'ai perdu mon corps ne raconte pas aussi une métamorphose?
Alors oui, en tout cas, on est dans la métamorphose, sans spoiler évidemment quoi que ce soit de la fin, bien sûr. Mais en tout cas, pour revenir à Koji Yamamura, c'est marrant parce que c'est un réalisateur qui, c'est le réalisateur qui m'a presque donné envie de faire de l'animation quand j'ai découvert Le Monstre Chef, un de ses films d'animation. Et de manière plus générale, je trouve que dans voilà, au Japon, ils arrivent peut-être à s'approprier beaucoup plus le fantastique et à jouer sur des personnalités très différentes comme Kon Satoshi qui raconte dans un même individu, on est multiple, il y a la part privée, la part virtuelle, la part fantasmée, et ils arrivent à combiner tout ça dans un langage qui vraiment leur est propre. Et le film J'ai perdu mon corps, en quelque sorte, s'apparente un peu à ce genre de mécanique-là. Alors, je réponds pas du tout à votre question, pour mettre en pause. Oui, alors effectivement, c'est vu qu'on est dans un personnage qui est ancré dans le passé, il est là à vivre vraiment le présent sans vraiment le vivre, alors que la main, elle, s'échappe et refuse de faire partie du passé. La main, elle va vers quelque chose qui, normalement, est complètement absurde pour elle, vers un avenir. Et ce personnage-là est effectivement en proie à tous ces questionnements-là. Comment, pour se métamorphoser, il faut avoir un objectif. Faut tendre vers quelque chose, et quand on n'en a pas, c'est très difficile de bouger, évidemment. Donc il y a cette idée de tout au long du film de se trouver, de se chercher, et je pense que c'est aussi pour ça que le film est un peu aussi générationnel et parle aux jeunes générations, parce que c'est des générations qui sont en train de se chercher, de se construire, où tout est un peu chaotique, et la métamorphose, c'est chaotique.
Kon Satoshi, Koji Yamamura, vous citez vous aussi Guillaume Laurent Miyazaki parmi vos références en cinéma d'animation. C'est un film bien français, hein, J'ai perdu mon corps, mais il fallait faire un détour par le Japon pour trouver une poétique commune.
Alors, je pense que c'est surtout un détour par la fable. Moi, j'adore les fables. Et cette histoire est un petit peu une fable, et le film est une fable. Et quand une fable marche, je trouve que ça atteint une émotion qui est un peu universelle. Et les gens sont atteints d'une manière complètement intime, et que chacun exprime d'une manière différente et personnelle. Et c'est ce qui me plaît beaucoup dans cet aspect, voilà, de un conte, une fable, et on est tous touchés d'une manière différente. Et là, c'est ce qui m'est arrivé en voyant le film, d'ailleurs.
Et c'est aussi ce qui vous arrivera peut-être en écoutant ce qui va suivre. Dans l'actualité musicale, il a neigé yesterday, hier dimanche, alors qu'on apprenait le décès de l'actrice et chanteuse Marie Laforêt.
Marie douceur, c'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie colère existe aussi, fais bien attention. Je te l'ai déjà jadis 100 000 fois sur tous les temps. Marie douceur a beaucoup, beaucoup de patience. Oui, mais un jour tu verras entrer dans la danse Marie colère avec des éclairs dans les yeux. Je sais lequel aura le plus peur de nous deux. Marie douceur est avec toi bien trop gentille. Si tu persistes à regarder les autres filles, aime bien chanter des ballades, mais ne t'y fie pas trop, un bon conseil prendrait. Bien sûr, me connaître mieux que personne. Marie colère est maintenant là devant toi.
Marie Douceur, Marie Colère, une reprise de Paint in Black des Stones par Marie Laforêt. Elle était liée à cette génération des yéyés. Elle avait pleuré déjà la séparation des Beatles dans Il a neigé sur Yesterday. Ici, une reprise donc des Rolling Stones, surnommée la fille aux yeux d'or. Marie Laforêt, chanteuse et actrice, révélée au cinéma dans Plein Soleil. Elle a marqué la scène, notamment par son interprétation de la Callas. C'était en 2000. On a appris qu'elle était décédée hier.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Marie Laforêt, pour l'homme de cinéma que vous êtes, Guillaume Laurent, elle incarnait.
Je me souviens très bien, de plutôt enfant, quand je l'entendais chanter. J'étais amoureux des pochettes de disques. Je trouvais qu'elle avait des yeux.
Ses yeux.
Évidemment, j'étais sûrement pas le seul. Et après, je l'ai vu jouer au théâtre La Callas. Et évidemment, c'était une personne avec une espèce de grâce comme ça, de singularité un petit peu, je savais même pas qu'elle était. Donc, je suis surpris d'apprendre ça. Je ne savais pas qu'elle n'était plus là.
Quel point commun, Guillaume Laurent, entre les précédents films, scénarios sur lesquels vous avez travaillé et ce film de Jérémy Clapin, J'ai perdu mon corps. On vous connaît pour vos collaborations, notamment avec Jean-Pierre Jeunet, pour Amélie Poulain. Aujourd'hui, vous retrouvez dans ce film un univers lié peut-être à la ville, lié aussi aux rêves, à l'enfance qui vous est proche.
Les deux sont présents, l'enfance. Ça marche comme de la même manière qu'Amélie, d'une certaine manière, même si la ville est représentée d'une manière très différente. C'est une ville qui est inventée, qui est stylisée, et on est dans un conte, on est dans une fable. Et il y a aussi un autre point commun que je vois entre les deux, c'est au niveau de la maîtrise de la mise en scène. Pour J'ai perdu mon corps, en plus beaucoup de temps, parce que le scénario a été très très long à écrire.
Combien de temps?
Plusieurs années, on peut dire, parce que c'est particulier en animation. Il continue à s'écrire quand le film est déjà en tournage. C'est différent d'une prise de vue réelle. Et du coup, beaucoup de temps avait passé pour moi entre le moment de la fin de l'écriture, de la collaboration d'écriture, en tout cas avec Jérémy, et le moment où j'ai vu le film. Et j'ai fait des comparatifs avec Jean-Pierre, on en avait parlé ensemble d'ailleurs, au niveau effectivement de cette maîtrise de la mise en scène. Après, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de complètement... je me suis fait cueillir derrière cette maîtrise par une émotion qui est venue, et qui venait presque, je dirais, de l'intérieur, et qui est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup remué quand j'ai vu le film.
Mais on parle quand même depuis une vingtaine de minutes d'une main qui s'enfuit d'un frigo, qui va parcourir la ville à la recherche de son corps, des rames du métro, au lit ou au bain d'un bébé, qui va s'échapper et tenter à travers cette course poursuite avec elle-même de se retrouver. Ça, seule l'animation pouvait le faire. Vous auriez imaginé une adaptation de votre main à vous, votre happy hand, en prise de vue réelle?
Quand le roman est sorti en 2008, tout le monde m'avait dit il est inadaptable. Et effectivement, je pense qu'en prise de vue réelle, c'était très compliqué parce que soit c'était tout de suite assez... la main faisait peur, ça pouvait être un peu gore, ça pouvait être ridicule. C'était très très compliqué. Il fallait vraiment pouvoir amener l'histoire complètement ailleurs, dans un monde inventé, ce que permet l'animation, ce que permet cette dimension-là de styliser complètement tout l'univers. Et je pense que sinon c'était beaucoup plus dur à imaginer.
Et même en animation, c'était une prise de risque énorme, Jérémy Clapin, pour votre producteur, notamment Marc Dupont-Aviz, après Augie et les Cafard, Gainsbourg, Vier et Héroïque, s'attaquer à un projet comme ça, mettre des billes dans un film comme celui-là, c'était une sacrée prise de risque.
Oui, je pense qu'il a eu vraiment un coup de cœur pour le projet, le livre de Guillaume Laurent. Ensuite, quand il a fallu trouver un réalisateur, peut-être c'était plus compliqué. Et on s'est rencontrés en 2011, donc ça remonte pas mal, toute cette histoire. Et il y a eu pas mal de temps de réécriture pour arriver à rendre ce point de vue vraiment très cinématographique. Évidemment, on a été assez seuls, en fait, sur le financement du film, parce que personne ne voulait aller au-delà de ce personnage, ce morceau d'être humain. personne pouvait surpasser ça pour aller voir toute la poésie qu'on pouvait mettre derrière, en fait. Moi, ce que j'aime dans ce genre de challenge-là aussi, de ce fantastique-là, c'est d'amener une poésie là où elle n'est pas attendue, finalement. Je la trouve toujours plus forte quand elle vient charger des endroits où elle n'est pas invitée. Et c'est ce qui se passe au-delà de cette main-là. Le film raconte vraiment quelque chose de beaucoup plus... très universel sur la quête de soi, vous l'avez dit, mais elle nous fait vivre aussi des émotions, elle nous fait voyager en tant que spectateur aussi un petit peu à l'intérieur de nous-mêmes, finalement. Ça nous re-questionne par rapport à notre enfance. Et à voir, c'est vrai, les réactions des gens en sortant de la salle, souvent, il y a quand même une émotion, ils n'étaient pas préparés à ça. C'est vrai que sur le pitch, c'est très difficile à vendre un film comme ça. Donc les gens, en plus, il y a ce contraste-là très frappant entre le pitch, quand même très... ok, c'est une main qui va se balader. Et finalement, ce qui se passe dans le film, on ne peut pas être préparé à être cueilli sur des thématiques comme ça.
Non, d'autant qu'on s'y attache à cette main très rapidement, parce qu'effectivement, elle voit, elle ressent, elle entend, et elle est assez incroyable pour cela. Écrire, c'est comme dessiner. L'histoire doit être solide avant que le film puisse être lancé. Ça, c'est ce que disait le Néerlandais Michael Dutocq-de-Witte, le réalisateur de La Tortue Rouge, sorti en 2016, prix spécial Un Certain Regard. Il l'a passé, lui, vous évoquiez le temps passé sur l'écriture, 10 ans sur ce film, La Tortue Rouge, qui fait partie des précédents à partir desquels vous avez pu aussi imaginer votre film, Jérémy Clapin, Valse avec Bachir, Persepolis, aussi autant de films d'animation pour grands qui traitent du réel avec poésie. On n'a pas parlé encore de la musique qui est essentielle dans un film comme celui-ci. Il nous reste une petite minute. Dans J'ai perdu mon corps, l'électro rejoint Bach et Schumann. Et le rap de l'ordre du périph. Pour Valse avec Bachir, Harry Folman s'était entouré du compositeur Max Richter. Vous avez choisi Dan Levy du groupe The Do, qui a composé spécialement pour. La musique, elle est toujours importante dans un film. Est-ce qu'elle l'est encore plus en animation? Parce qu'elle porte les émotions.
En tout cas, dans mon film, c'était une évidence, c'est-à-dire que c'est un film qui se s'ancre dans un quotidien assez réaliste, la banlieue parisienne, et j'avais besoin, la fonction de la musique devait amener du mystique et du cosmique dans ces situations-là. En fait, j'avais besoin de cette musique pour porter cette histoire plus proche du conte, nous faire vraiment nous élever, la salle, à la fois le spectateur. Pour faire de ce Paris-là, parce qu'on filme la ville de Paris déjà d'un angle complètement différent qu'est celui de la main, mais il fallait aussi qu'on l'entende avec des musiques totalement nouvelles. Alors c'est un mélange de musique un peu classique avec des nappes plus électroniques, et c'est vraiment une vraie rencontre artistique et humaine avec Dan Levy, c'était fantastique.
Voilà, un film qui a déjà commencé à dribbler avec son destin, je le rappelle, récompensé au Festival d'Annecy et au Festival de Cannes, qui sera sur le grill des critiques de La Dispute ce jeudi sur France Culture à 19h autour d'Arnaud Laporte. Merci beaucoup à vous Jérémy Clapin, merci Guillaume Laurent, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. La version livre sort également chez Point en librairie, ce sera le 7 novembre. J'ai perdu mon corps, le film sort en salle mercredi. Bel après-midi. Merci.